Voilà. Donc, le premier cours que nous allons voir, c'est sur l'école des serviteurs, c'est l'introduction. Qu'est-ce qu'un serviteur? Alors, un serviteur, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui est là pour servir. Dieu se choisit des porte-paroles et des représentants. Il a choisi Israël, donc pour le représenter en tant que nation. Ensuite, en Israël, il a choisi une personne pour le représenter. Cette personne, si on remonte en arrière, vraiment, c'est Abraham qu'il va appeler et qu'il va conduire. Et ensuite, d'Abraham, il va choisir encore une tribu qui va servir pour le représenter. Cette tribu, c'est la tribu de Lévi. Donc, c'est les Lévites qui vont représenter Dieu dans le service et dans tout ce qu'ils font. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, on se pose souvent la question, pourquoi est-ce que Dieu a utilisé Israël et pas d'autres nations? Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé telle ou telle personne et pas un tel? Donc, c'est très important de se dire que Dieu a choisi une nation. Dans cette nation, il a choisi une personne. De cette personne, il a choisi une tribu. Cette tribu, c'est la tribu de Lévi. On va lire en Deutéronome 10, verset 8. Et Deutéronome 18, verset 1.
8 verset 10.
Deutéronome 10, verset 8.
Bah, 10 verset 8.
Vas-y.
En ce temps-là, en ce temps-là, l'Éternel séparera la tribu de Lévi. Et il lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit.
Amen.
Amen.
Donc Dieu a choisi la tribu de Lévi pour le servir. Et cette tribu ne pouvait pas travailler puisqu'ils étaient consacrés à 100%. C'est-à-dire que tous les gens de Lévi, quand ils naissaient, ils étaient consacrés au temple. Et ils faisaient tout pour le temple. Donc c'est les offrandes et les sacrifices que les autres tribus amenaient qui permettaient aussi aux Lévi de vivre. Dans ces sacrifices et ces offrandes, il y avait une part qui était réservée aux Lévites. Donc, nous, quand on parle d'un serviteur, c'est une personne qui est appelée. C'est une personne qui est consacrée à Dieu. On a parlé de la consécration dimanche dernier et le dimanche encore avant, la consécration. La consécration, c'est le fait d'être dédié à Dieu, d'être offert à Dieu. Quand on dit que cette personne a été consacrée en tant que pasteur, cette personne a été consacrée en tant qu'intercesseur, ce qui s'est passé pour toi notamment, eh bien, on dit que cette personne a été offerte à Dieu pour accomplir cette mission. C'est ça la définition de la consécration. Et la consécration veut dire aussi que quand on dit que cette personne, Dieu a consacré cette personne, c'est-à-dire Dieu l'a appelée. Dieu l'a investie d'une mission. C'est ça la consécration. On voit aussi en Deutéronome, je crois que c'est 18, verset 1.
Les droits des Lévites et des sacrificateurs.
18, verset 1.
Les sacrificateurs des Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel.
Amen.
Amen.
Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Eux, ils ne travaillaient pas, ils étaient consacrés à Dieu. Et leur salaire, c'était ce que Dieu donnait, ce que les peuples amenaient, Là-dedans, dans les offrandes, ils avaient leur part. On peut voir aussi en Nombre 8, verset 14.
Séparera les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté, et que tu les feras que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté.
Et d'autres?
Et d'autres comme une offrande.
Amen.
Amen.
Donc ça veut dire qu'ils étaient offerts comme une offrande, ils étaient offerts à Dieu. Donc un serviteur, celui que Dieu se choisit, c'est une personne qui est offerte à Dieu. Nous, quand on décide de servir Dieu, on décide de marcher dans la voie de Dieu, de suivre Dieu et on prend des missions pour Dieu, ça veut dire qu'on est offert à Dieu. On est une offrande, on est consacré, on est une offrande pour Dieu. Et donc c'est Dieu qui est notre rémunérateur. Comme il est le rémunérateur des Lévites, il est notre rémunérateur aussi. Et ça, c'est une notion très importante. Parce que en tant que croyant, en tant que serviteur de Dieu, quand je parle de serviteur, c'est-à-dire quelle que soit la fonction, quelle que soit la mission, parfois on peut être découragé. Parce que les gens peuvent être trop exigeants envers nous. Les gens peuvent avoir un regard peut-être parfois, je dirais, dédaigneux ou méprisant en disant, d'ailleurs, ce que tu fais, est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que ça produit quelque chose? Et si nous, si on attend un salaire de la part de ces gens, ce salaire, c'est-à-dire que les gens nous reconnaissent, que les gens soient... qui nous récompense d'une manière ou d'une autre de notre service, alors on peut être déçu. On peut être déçu et on peut se décourager et abandonner. Et se dire, bah, en fait, tout ce que je fais, ça ne sert à rien parce que les gens ne reconnaissent pas, personne enfin, ne voit que les efforts que je fais sont importants. Donc, autant laisser tomber, je laisse tomber. Non. Les Lévites, eux, ils savaient qu'ils étaient appelés et que leur salaire venait de Dieu. Ils n'attendaient pas qu'Israël soit d'accord avec eux, qu'Israël les reconnaisse. Ils savaient que leur salaire venait de Dieu et c'est Dieu qui les avait mis à part. Un serviteur de Dieu, c'est-à-dire une personne qui est appelée pour servir Dieu à une mission, à un rôle, cette personne, elle doit attendre son salaire uniquement de Dieu et pas d'une autre personne. Le Seigneur Jésus-Christ et Dieu cherchent qui ira pour eux auprès des nations pour faire entendre leur voix. Le Seigneur Jésus et Dieu cherchent une personne à envoyer. Ils cherchent une personne qui peut aller annoncer leur oracle, leur message, leur prophétie, leur promesse aux nations. Qui va y aller? Dieu cherche une personne. On peut lire en Ésaïe 6, versets 1 à 10. Regarde en Ésaïe 6, versets 1 à 10. Ésaïe 6, versets 1 à 10.
La vocation et mission d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur et ne convertisse point et ne soit point guéri. Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert.
Amen. Amen. On s'arrête là. Ouais. Donc ici, on voit une personne, Ésaïe. Ésaïe était dans sa maison, j'imagine qu'il priait, qu'il demandait à Dieu, parce qu'en fait, il était dans le chagrin, parce que le roi Ozias était mort. Et donc, lui, il demandait à Dieu, maintenant que le roi est mort, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Qui sera roi sur Israël? Voilà. Alors, le Seigneur se révèle à Ésaïe. Le Seigneur se manifeste à lui. Et le Seigneur, et on voit ici comment est-ce que la présence de Dieu apparaît.
On apparaît avec ses anges, avec les séraphins.
Voilà. Et toute la gloire de Dieu remplit le temple, on nous dit. Nous, on doit savoir ça, que quand on prend un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous, moi je dis ça comme ça, un rendez-vous divin avec le Seigneur pour servir Dieu, pour prier, pour adorer Dieu, pour louer Dieu, pour le culte, pour telle ou telle mission. Quand on a prévu ce rendez-vous avec Dieu, alors on doit savoir qu'à l'instant où on a défini, si c'est 10h30, 10h30, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu remplit le temple. Parce qu'on a pris rendez-vous avec lui. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils de l'homme pour se répentir, nous dit la parole. Donc si Dieu a dit qu'il est là au milieu de nous, alors il est là au milieu de nous. Quand nous on dit 10h30, 10h30 tapant, Dieu est là. Ça veut dire que nous, on doit avoir ça en tête. Et ce n'est pas un homme. Si on devait aller devant Joe Biden et qu'on avait rendez-vous avec Joe Biden à une heure précise, on arrive après, c'est fini. On ne laisse pas passer. Pourquoi? Parce que l'heure qui était définie pour le rendez-vous avec Monsieur le Président Joe Biden, cette heure est passée. Et il est passé à autre chose aussi. Voilà. Donc nous, quand on a rendez-vous devant Dieu, Dieu nous accorde une heure précise. À cette heure-là, les choses doivent commencer. Et c'est nous qui sommes les serviteurs, c'est nous que Dieu nous appelle à servir. Dieu nous appelle à être ses représentants. Il nous appelle à être le garant de ce fonctionnement. Au ciel, c'est les séraphins, c'est les archanges, c'est les anges qui s'occupent de tout ça. Dieu leur a confié cette mission. Et ici sur terre, c'est nous qui sommes les garants de cette mission. Quand nous nous engageons pour telle mission, ça veut dire qu'on doit être rigoureux. On doit être précis avec l'heure. Parce qu'on sait qu'à cette heure-là, on s'est engagé à commencer le culte et on sait que la présence de Dieu descend à cette heure-là. Parce que nous croyons que Dieu, il est là quand on se réunit. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le corps et Christ est la tête de ce corps. S'il y a le corps, il y a forcément la tête. Donc le corps, c'est l'Église. C'est chaque personne qui quitte sa maison, qui vient se rassembler dans ce lieu avec les frères et sœurs. Alors l'Église se réunit, Le corps de Christ est là, donc la tête est aussi là. Et on doit avoir ça en tête. C'est super important. Parce que souvent, on néglige les choses de Dieu, on néglige nos retards, on néglige nos négligences, nos manquements, en se disant que ah, ça va, ça va. Mais si on transpose les choses par rapport aux hommes de ce monde, moi-même, mes managers, si je lui donne rendez-vous à 10h30 et que j'arrive à 11h, une fois, deux fois, après, ça passe plus. Voilà. Encore moins devant Macron, encore moins devant, on disait tout à l'heure, Joe Biden. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont déjà, d'une part, des responsabilités énormes, et aussi, d'autre part, leur temps est compté. Leur temps est compté, ils ont beaucoup de choses à gérer. Donc, on ne peut pas se permettre de leur faire perdre du temps. Ils nous accordent du temps, donc on estime que ce temps est précieux. Dieu nous accorde du temps, son temps est précieux. Le temps que Dieu veut passer avec nous, il est important et il est précieux. Il est privilégié. Donc, c'est à nous de veiller à ce qu'on soit là à l'heure, de faire notre part. Une fois que nous, on a fait notre part, on est à l'heure, on a assuré tout ce qui devait se faire correctement, alors, nous, on peut dire à Dieu, nous avons fait tout ce que tu nous as demandé de faire. Maintenant, c'est à toi de te manifester. Fais ta part. Ce n'est pas l'inverse. Souvent, on a tendance à négliger la parole, à négliger le service, l'office pour Dieu. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se plaint que les choses ne bougent pas dans nos vies, que ça fait des années qu'on fait les mêmes prières, que ça fait des années qu'on demande les mêmes choses, que ça ne bouge pas. Ben en fait, à un moment, il faut qu'on soit rigoureux avec Dieu. Rigoureux pour savoir que notre Dieu, c'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui règne, et c'est un Dieu qui agit dans nos vies. Dieu cherche qui va appeler. Dieu cherche qui il va envoyer. Dieu cherche qui il va consacrer. Regarde, tu peux relire le verset. Tu peux relire le verset 8. Ésaïe 6, verset 8.
J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous?
Voilà. Dieu cherche une personne à envoyer. Dieu cherche une personne qui peut porter sa voix, qui peut porter sa mission, qui peut être un représentant pour lui, un ambassadeur. C'est Paul qui nous parle de ça, que nous, en tant que chrétiens, nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire, nous sommes des représentants de Dieu là où Dieu nous a placés, dans nos travails, dans nos maisons, partout. Et encore plus, ambassadeurs de Christ, ambassadeurs de Dieu, dans notre église, quand on assure le service, quand on assure le culte, la première chose que les gens voient, c'est ce qui est physique, c'est ce qui est extérieur. Quand on rentre dans un lieu, c'est ce que nous voyons. Si on rentre dans un lieu, c'est tout sombre, c'est tout bizarre, ben on va se sentir bizarre, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Même si dans ce lieu-là, on nous dit que non, il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, tout va bien, on va quand même être inquiet. Voilà. Et si on est accueilli par des gens hyper aigris, hyper en colère, des gens peu courtois, pardon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Pareil, on ne sera pas du tout intéressé, attiré de rentrer dans un lieu pareil. Parce qu'en fait, on va voir que ah, y a comme quelque chose qui ne va pas ici. Donc, le service, c'est aussi ce que nous renvoyons aux gens. C'est aussi ce que nous laissons paraître aux gens. C'est la représentation que nous faisons. Imaginons que nous devons jouer une pièce de théâtre dont le Seigneur est le metteur en scène. Voilà. Nous devons jouer cette pièce de théâtre que Dieu nous demande de jouer et à la façon dont il veut qu'on joue. Parce que cette pièce de théâtre va le représenter lui, va le manifester lui au monde entier. Alors ça veut dire que nous devons jouer cette pièce de théâtre d'une manière la plus exacte possible.
Et la plus édifiante.
Et la plus édifiante. Pour que les gens, quand ils viennent, ils se disent, ah, ce Dieu-là, il est comme ça? Ben, c'est ce Dieu-là que je veux. Ah, ce Dieu-là, c'est pas, il est différent de l'autre Dieu. Alors, c'est lui que je veux. Il est différent de Bouddha. Il est différent de Dieu hindou. Alors, c'est lui que je veux. C'est ce Dieu-là que je veux. C'est celui qui a la solution pour moi. C'est celui qui a la solution pour ma vie. Donc, Dieu veut que nous soyons des représentants fidèles, des modèles fidèles. Tu vois, un modèle, ouais, on dit un modèle. Quand on veut faire une sculpture ou un tableau ou quelque chose, ben, on veut que ce que on a fait, ça puisse ressembler le plus possible au modèle, à celui qui est là pour être utilisé en fait. Voilà. Ben, Dieu veut que nous aussi dans notre vie qu'on soit des représentations fidèles de ce modèle qui est Jésus-Christ. Dans notre attitude, dans notre façon de penser, dans notre façon de parler, Dieu veut que nous soyons des représentations fidèles de Christ. Parce que c'est ça qui va bénir les gens. Les gens ne viennent pas à l'église chercher les émotions. Les gens, en tout cas, si on est enseigné et si on connaît la parole, on ne vient pas chercher des émotions. On ne vient pas chercher de l'argent. On ne vient pas chercher je ne sais quelle chose ou quel but. On vient chercher le Seigneur. Les croyants viennent chercher le Seigneur. Les croyants viennent chercher le Christ. Ce Christ qui est mort à la croix, qui s'est donné, qui a donné sa vie pour l'humanité, pour qu'il soit sauvé, c'est les gens quand ils viennent à Jésus, qui viennent dans notre église, ils veulent voir Jésus dans la vie de celui qui a la porte, dans la vie de celui qui les accueille, dans la vie de celui qui s'occupe des chants, dans la vie de l'enseignant, dans la vie du pasteur, dans la vie de chaque membre de l'église. Les gens viennent pour voir Christ, pour le rencontrer. Et c'est ça qui va les sauver. C'est ça qui va faire que les gens vont s'attacher à Dieu. S'ils ne rencontrent pas Christ dans l'organisation qui est mise en place, dans la structure qui est faite, alors les gens vont être quelque part soit déçus, soit désemparés. Parce que le premier contact qu'ils vont voir avec l'Église et avec Dieu, c'est peut-être celui-là. C'est de se dire, ah, je suis rentré dans cette Église, mais voilà, j'ai pas été bien accueilli, ou l'ambiance n'était pas super bonne, ou les gens entre eux, c'est pas ça. Alors, ça ne me donne pas trop envie de revenir. Et une personne comme ça va retourner et va peut-être être refroidie dans sa marche avec Dieu. D'où, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, on doit, en tant que serviteurs de Dieu particulièrement, les serviteurs particulièrement, on est représentant de cette autorité de Dieu. On est détenteur de cette autorité. Regarde, il le dit au verset 7, au verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel et avec qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Donc, Dieu enlève nos péchés et nos iniquités. Mais pourquoi? Pour qu'on soit propre pour le représenter. Pour qu'on soit propre, qu'on soit digne de le représenter. Mais c'est Dieu, ça c'est la grâce de Dieu qui fait que il va enlever l'iniquité, il va enlever, voilà, notre péché. En fait, voilà, si on regarde le verset 8, Dieu cherche une personne à envoyer. Dieu cherche une personne qui va consacrer. Et Dieu cherche une personne, Dieu va appeler une personne. Donc, dans l'ordre, Dieu appelle, Dieu consacre et Dieu envoie. L'appel, c'est dire, tiens, aujourd'hui, Dieu te voit en tant qu'intercesseur, Dieu te voit en tant qu'enseignant, en tant qu'évangéliste. Ça, c'est l'appel. Et Dieu va te consacrer, c'est-à-dire Dieu va ôter ton péché et il va te donner des capacités d'arriver à accomplir ce que tu as à accomplir. Et c'est Dieu qui t'envoie aussi. Donc tout ce que nous faisons, nous le faisons sous l'autorité et la conduite de Dieu. Il n'y a pas une chose qu'on peut faire par nos propres moyens, par nos propres capacités. Parce que si on fait des choses par nos propres capacités, alors à un moment donné, on va utiliser notre chair et on ne va pas utiliser la puissance de Dieu qui vient du Saint-Esprit. Et ça, c'est super important. La consécration entraîne l'onction du Saint-Esprit qui donne la capacité. Donc, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous consacre, cela va produire en nous l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir réaliser ce que Dieu veut que nous puissions réaliser comme mission. On le voit notamment dans Jérémie 1, versets 6 à 7. Jérémie 1, versets 6 à 7. Regarde. Jérémie 1, versets 6 à 7.
Vocation et mission de Jérémie. Parole de Jérémie, fils de Hilkija, l'un des sacrificateurs d'Anatote.
Verset 6 à 7. Jérémie 1, verset 6 à 7.
Je répondis: Ah, Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai.
Voilà. Nous, souvent, quand Dieu nous appelle, on a tendance à se limiter. On a tendance à se regarder de manière naturelle et par la chair. On se dit, mais moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas prier. Je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas enseigner. On se regarde de manière naturelle. Et du coup, on se limite quand on se regarde naturellement. On dit, bah non, je ne peux pas aller là-bas parce que je ne sais pas le faire. Dieu va nous dire, va voir cette personne, parle-lui de moi, parle-lui de Dieu, et qu'il est sauvé. On va dire, ah, mais cette personne ne me croira pas. Parce qu'on regarde avec nos capacités naturelles.
Il y a ça, ouais, c'est vrai. En fait, on regarde beaucoup avec nos capacités naturelles et beaucoup avec la compréhension du monde. Là où, en fait, eh ben, on a déjà, enfin, moi, enfin, même avec l'appel que j'ai pu avoir là ces derniers temps, il n'y a pas à réfléchir. On te propose quelque chose. Est-ce que tu as réfléchi du moment où il fallait avoir la grâce, du moment où il fallait accepter la grâce?
C'est ça. Donc quand Dieu nous appelle, on n'a pas à réfléchir avec la logique du monde, avec la logique naturelle, avec le regard du monde. On ne réfléchit pas. On accepte la mission en comptant sur Dieu. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui consacre et c'est lui qui envoie. Donc si c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous consacre, alors il nous donne la puissance, il nous donne la force, il nous donne l'énergie, les capacités pour pouvoir agir. Et c'est ce qu'il dit à Jérémie, il dit, tu iras où je t'enverrai, parce que je vais te donner moi-même la force. Voilà. Donc il faut qu'en tant que serviteur, on enlève cet aspect qu'on a souvent de vouloir tout juger avec notre logique et notre intelligence. On voit aussi en Exode 4, versets 10 à 13.
Dix à treize.
Exode 4, versets 10 à 13.
Moïse dit à l'Éternel: Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet un sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit: N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur.
Amen.
Amen.
Voilà. Donc Moïse, pareil, Dieu l'appelle à le servir. Là, c'est la scène au niveau du buisson ardent. Quand il est devant le buisson ardent, que Dieu lui parle. Moïse va chercher toutes les excuses possibles. Mais je ne sais pas parler, mais je ne suis pas ceci, mais je ne suis pas cela. Nous aussi, on fuit devant l'appel de Dieu. Parce que la chair, les choses de la chair, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Donc notre chair, naturellement, quand Dieu nous appelle, elle refuse. Elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de servir Dieu. Elle veut servir un seul maître. C'est le monde, c'est le diable, c'est les plaisirs de ce monde. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous sommes nés de nouveau, nous sommes enseignés, on doit se dire, quand Dieu nous appelle, on doit répondre. On doit répondre simplement. Je veux y aller. Je sais que je n'ai pas les forces, je sais que je n'ai pas les capacités, mais je veux y aller. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par ma force que ça va se faire. Ce n'est pas par mes capacités que je vais arriver à faire les choses, que je vais arriver à produire quelque chose, mais c'est Dieu lui-même qui va agir. Il suffit parfois, c'est comme Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive et tu vas annoncer la bonne nouvelle. Jonas dit, non, je n'irai pas là-bas, je vais aller en Europe. Dieu lui dit, si tu vas y aller, il veut pas. Il fait tout ce qu'il voulait, Dieu lui montre qu'il devait y aller, finalement, il y va. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais je savais que de toute façon, tu es un Dieu qui est bon et tu pardonnes toujours, donc voilà, tu allais les sauver. En fait, Jonas ne voulait pas que ces gens soient sauvés. Voilà. Mais nous, dans notre cœur, parfois, on est comme ça. On est réticent. On trouve toutes les excuses en disant, je ne sais pas faire, je ne suis pas capable, je suis ceci. Mais pour les choses du monde, on ne réfléchit pas autant. Les gens prennent beaucoup plus de risques en faisant les choses du monde que ce que Dieu leur demande de faire. On est prêt à se jeter à l'eau, à aller au-dessus d'un pont, à se jeter de 300 mètres pour plonger, machin, tralala. Mais quand c'est les choses de Dieu, ah, mais non, je ne sais pas faire. Ah là là, ah là là, on trouve plein d'excuses et c'est si dangereux. Combien de fois on a joué notre vie? Combien de fois? Pour des futilités. Mais pour Dieu, on va trouver toutes les excuses. Donc, il faut se dire que quand Dieu m'appelle à servir, moi, je dois juste être disponible. Comme Ésaïe, il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu cherche ces personnes qui ont ce cœur, qui peuvent répondre, me voici, envoie-moi. Seigneur, je vais y aller. Seigneur, je vais prier. Seigneur, je vais te servir. Ce cœur disposé, ce cœur disponible, ce cœur humble, c'est ça que Dieu veut voir. Et le reste, c'est lui-même qui va faire. Le reste, c'est lui-même qui va faire. Dieu dira plus tard à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse va dire, j'ai le bâton. Dieu va lui dire, tu vois ce bâton, jette-le par terre. Des fois, qu'est-ce qu'on a dans la main? Qu'est-ce qu'on a dans notre vie? Qu'est-ce que tu as? Eh bien, ce peu que tu as, je vais le prendre et je vais le multiplier. Je vais le faire grandir. Et c'est avec ça que je vais faire des miracles. Et ça ne sera pas une œuvre de ta chair. Ça ne sera pas une œuvre de ta part. Ça sera par ma puissance. Et c'est là que tu vas voir que je suis le vrai Dieu. Celui qui t'appelle à servir. Donc, c'est très important de se dire, moi, je suis appelé. Mais je suis appelé par Dieu. Et si je suis appelé par Dieu, c'est Dieu qui va me donner les capacités. S'il me manque de capacités, eh bien, je dois demander à Dieu. Je ne sais pas prier, je demande à Dieu. Je ne sais pas enseigner, je demande à Dieu. Je ne sais pas faire telle ou telle chose, je demande à Dieu. On verra plus tard quels sont les moyens que Dieu va utiliser pour nous appeler, pour que nous devenions des serviteurs. Il y a plusieurs moyens que Dieu va utiliser. Mais quand je suis appelé, je dois me mettre dans cette idée que je sers un grand Dieu, un Dieu puissant, un Dieu qui règne de toute éternité. Ce n'est pas Macron, ce n'est pas Joe Biden, c'est un Dieu qui a créé Macron, qui a créé Biden. Dieu peut faire d'un claquement de doigts, Biden n'est plus là, Macron n'est plus là, les États-Unis sont plus là. Donc, ça, c'est les choses naturelles de ce monde qui n'ont pas d'intérêt pour Dieu. C'est un Dieu créateur. C'est aussi un Dieu de grâce. Quand nous servons, nous devons nous armer de grâce. Nous devons nous équiper de la grâce. Apprendre à se dire que je ne suis rien et c'est par la grâce de Dieu que je suis, alors ça nous donne en fait la force de servir Dieu. Quand les gens peuvent nous critiquer, les gens peuvent dire, mais ça, tu ne fais pas bien, tu devrais faire comme ça, on va dire, ok, j'accepte. Je sais que je ne suis pas encore parfait. Dieu est en train de travailler dans ma vie. Et ce que je sais faire, je le fais par sa puissance. Par sa grâce, je fais. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Un serviteur, celui qui est appelé, c'est celui qui sait dire ça. Pourquoi? Parce que c'est la grâce de Dieu va être comme une couverture, comme une protection autour de nous. Parce qu'on ne va pas se voir trop haut, on ne va pas se voir trop bas. On va juste voir ce que Dieu est capable de faire en nous. On va juste voir ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Regarde, on va regarder en acte 20, verset 21. Acte 20, verset 21. Qu'est-ce qu'il nous dit? Acte 20, verset 21.
Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Mmh. Et maintenant, voici liés par l'Esprit.
Ouais.
Et maintenant, voici liés par l'Esprit. Mmh. Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mmh. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie.
Amen.
Comme si elle m'était précieuse, mmh. pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu.
Voilà. Amen. Il dit, je ne fais de ma vie aucun cas. Ah. C'est-à-dire que ma vie à moi ne compte peu. Mes besoins, mes désirs, mes machins, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'appel que j'ai reçu du Seigneur. C'est quoi cet appel? Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est d'annoncer l'évangile. C'est ce que le serviteur doit avoir dans son cœur. Moi, je suis appelé à faire quoi? Qu'est-ce que Dieu m'appelle? Si c'est la prière, peu importe ce qui se passe autour, moi, je dois prier. Je dois prier. Je viens devant Dieu déposer les sujets. Si mon appel, c'est l'enseignement, alors peu importe ce qui se passe autour, moi, je dois enseigner. Je dois enseigner. Mon appel, c'est un appel pastoral. Alors, peu importe ce qui se passe autour, je conduis le troupeau de Dieu. Je dirige l'église du Seigneur et je le dirige comme Dieu veut que je puisse le diriger. On va finir sur Acte 26, versets 16 à 17. Acte 26, versets 16 à 17.
Ok. Alors, défense de Paul devant le roi d'Agrippa. Mm-hmm. Ouais. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, mm-hmm. car je te suis apparu pour t'établir ministère et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Mmh. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, mmh. vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, mmh. pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Amen.
Amen.
Voilà. Donc Dieu appelle Paul et Dieu lui confie à Paul une mission d'aller vers les nations, d'annoncer l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle, pour proclamer le salut en Jésus-Christ. Dieu lui dit de se lever et de se tenir debout, de se tenir sur ses pieds. C'est ce que Dieu fait. Nous, on est fébrile, on est sans force, on manque d'énergie. Mais c'est Dieu qui nous donne la force. Quand il dit « lève-toi et tiens-toi debout », ça veut dire « je te donne la puissance ». Dieu nous donne la puissance, il nous donne la force de le servir. Et c'est ce que nous devons aspirer en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs. Voilà. Je sais que Dieu m'appelle à faire ça. Je manque de force, je manque d'énergie. Parfois, je peux être fébrile, je peux être pécheur, je peux être tout. Mais heureusement, je ne fais pas les choses par ma force. Je le fais par la force de Dieu, par la puissance de Dieu. Et c'est lui qui me rend capable. C'est lui qui me rend digne de pouvoir officier, de pouvoir servir dans sa maison. Et c'est ça qui est important. Et quand je me saisis de cette vérité-là, ça veut dire que je me saisis de la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Si je sers Dieu aujourd'hui, je fais ce que je le fais par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui est mon rémunérateur. C'est Dieu qui est mon maître, mais c'est aussi lui qui est mon rémunérateur. Quand on parle de Dieu, on parle de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui a le ministère d'être le souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur devant Dieu. Et nous, nous sommes ses représentants. La Bible nous dit que Dieu veut nous transformer à l'image parfaite de son Fils Jésus-Christ. Et c'est ça un serviteur. Le serviteur, il doit tendre à devenir une image parfaite de son serviteur, de son maître qui est Jésus-Christ. Amen.